Au quotidien, avec Hélène Denis.
Avril 2026, la jolie date. Oui, c'est la date anniversaire d'une personne que j'aime beaucoup. Mon filleul, Jacob.
Ah bon, on lui souhaite bon anniversaire.
C'est gentil, Serge. Merci beaucoup. Alors, si tu es à l'écoute, Jacob, on te souhaite une belle journée, bonne fête. On va fêter ça probablement en fin de semaine. C'est pas un surprise. Fait que j'ai rien dit là pour choquer personne. Ça va bien, Mathieu?
Très bien.
Oui.
Elle-même, Hélène.
C'est quoi ce rythme-là?
C'est un rythme où je prends mon temps. Je marche entre les gouttes et les trous de nid de poule.
Ah oui, hein? Toute la pluie tombe sur moi et je m'enfarge dans les nids de poule.
Ah oui.
Et j'ai faussé un peu comme la chorale de la CAQ. Bon, alors, cela dit, je fais rire Isabelle Falardeau, je suis contente. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Aujourd'hui sera question de littératie alimentaire.
Oui, puis inquiétez-vous pas, là, pour ceux qui ne sont pas sûrs ce que ça veut dire, littératie ou littératie alimentaire, je vais tout vous définir ça. Mais en gros, c'était un forum alimentaire qui était organisé par le Collège Antique le 26 mars. Et donc, on a parlé de gaspillage, en fait, comment l'altératie alimentaire peut contrer le gaspillage.
Très intéressant. Merci beaucoup. Et Serge, vous allez nous parler de bière.
De bière, oui, oui. Prendre un verre de bière, mon minou. Oui. Et ce qui est intéressant dans l'article, c'est que on nous parle des origines de la bière. Et la bière, à l'origine, était faite par des femmes. Et ça, on remonte très, très loin l'Antiquité.
Oui, accrochez votre diamant.
Oui.
Oui, alors, vous disiez que les femmes étaient
On ne parlait pas de brasseurs, on parlait de brasseuses de bière. Et jusqu'au 19e siècle, d'ailleurs.
Ah oui? Vous avez trouvé ça dans une revue?
Ça m'intéresse, l'histoire.
Oui, alors ça nous intéresse aussi. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui sera intéressant également, ce sont des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. Également, on va rencontrer Mathieu Giroux, l'auteur de « Moi, autiste, point d'interrogation, comprendre le TSA de l'intérieur ». Et aussi, on s'entretiendra avec Annie Deniel, réalisatrice, ainsi que Marie-Claire Nadeau, militante communautaire, pour le documentaire « Voir, juger, agir, l'histoire de la JOC au Québec ». La JOC, ça veut dire « Jeunesse ouvrière catholique ». Alors, on s'entretiendra avec ces deux femmes autour de 10h30. Restez avec nous jusqu'à la toute fin de l'émission, parce qu'il n'y aura pas un moment d'ennuyant.
Quand je vais être bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille, m'a payé mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'a l'apprendre pour le vrai. Quand j'ai des bons gants, pas d'alcool, pas de tabac. M'a mettre des bobettes, m'a lire la gazette, m'a checker les sports, m'a compter les morts. M'a passé mon check-up, m'a va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, mon forcé en ciboire. Quand je vais des bons gants, pas d'alcool, pas de tabac. Je vais avoir l'esprit d'équipe, impliqué tout de kit. M'a crampé en masse, m'a m'toyé une place. Quand je vais des bons gants, m'a gravir les échelons, m'a comprendre mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop m'installer. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand ouais, mon gars, m'en va les inviter, m'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, amène-en, m'en emmène. Maman débouché une fois n'est pas coutume. Ah là, tout le monde va se mettre, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit sur les ors, m'a sauté dans mon char, m'a descendre à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, m'a descendre en enfer. M'a flobé ma paye, m'a les vendre des bouteilles. M'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal. M'a viré sur le top, pas de cadran, pas de capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front. Elle va dire ah.
bon gars. Abrazo, abrazo, ma ouais, des bons gars. Pas d'alcool, pas de tabac. Moi, reste tranquille, m'a payé mes billes. M'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Oh, sport, smart and blood. Ils vont m'aimer en Hérode. Excellent citoyen, pas parfait, mais pas loin. M'en manger du poisson, m'en va faire du ski de fond. M'en m'acheter des records de Michel Rivard. M'en faire semblant que c'est intéressant. Quand ouais, est mon gars, pas d'alcool, pas de tabac.
Ah là là, une chanson qui vieillit pas, Le bon gars de Richard Desjardins.
Un grand classique, on peut dire ça déjà, hein, un classique. Vous la connaissez par cœur, je vous voyais la chanter, Mathieu. Et oui, moi je la connais, mais pas par cœur. Alors, répit à la pompe, c'est la une de la Presse Plus d'aujourd'hui. Ottawa suspend sa taxe sur l'essence, mais cette économie de 10 cents le litre se rendra-t-elle dans vos poches? Il y en a qui sont contents, d'autres trouvent que c'est un gros gaspillage, comme Francis Vaille, une décision insensée, écrit-il. Du gouvernement Carney, un gouvernement qui nage dans les déficits, a-t-il les moyens de se priver de 2,4 milliards de dollars de revenus? Un gouvernement qui veut doper ses dépenses militaires peut-il en même temps réduire de 2,4 milliards les revenus qui lui servent de source de financement? Un gouvernement qui est maintenant majoritaire est-il contraint de faire plaisir aux partis de l'opposition, nommément les conservateurs, en adoptant des mesures populaires qu'ils réclament? Un gouvernement dirigé par un premier ministre qui a reconnu l'urgence climatique est-il bien avisé de réduire la taxe sur l'essence, sachant que le prix de l'essence est un puissant outil pour inciter les consommateurs à prendre le virage vert? À toutes ces questions, la réponse est assurément non. La décision de Mark Carney, de son ministre des Finances, François-Philippe Champagne, est donc insensée à plusieurs égards, écrit Francis Vaille. Et puis, toujours en ce qui concerne cette réduction à la pompe, il y en a qui sont pour, comme je vous le disais. Une hausse qui fait mal. CA Québec a accueilli favorablement l'annonce du gouvernement Carney. Le club automobile provincial ne se soucie pas de géopolitique et aide surtout ses membres à en avoir le plus possible pour leur argent. Dans ce contexte, la hausse des dernières semaines a fait mal, explique son porte-parole Simon Bourassa. Elle a fait bondir le prix du litre d'essence ainsi que celui du litre de diesel à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Surtout, CA Québec a entendu beaucoup de ses membres exprimer leur impression que le prix de l'essence montait au-delà de ce qu'ils estiment être un prix réaliste en raison de circonstances, la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran, qui échappe complètement au contrôle du Canada, au-delà du simple bénéfice immédiat de pouvoir faire le plein à moindre coût. Cette réduction de 10 cents le litre d'essence pour la période estivale aura un impact probablement plus large sur l'économie partout au pays. Alors, on parle aussi d'une mesure inéquitable sans vision. L'élimination de la taxe sur l'essence est une mesure inéquitable à plus d'un titre, constate le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, Normand Mousseau. D'abord, elle ne touche que les conducteurs d'un véhicule à essence ou diesel. Ensuite, elle encourage les véhicules les plus gourmands et ceux qui parcourent le chemin le plus long. Cette mesure sera donc effective jusqu'en septembre, jusqu'à la fête du travail. Autre titre à la une de la Presse Plus, cancer du sein virulent. J'ai peur de mourir. Une deuxième femme atteinte d'un cancer du sein particulièrement agressif et suivie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dénonce les délais en pathologie qui retardent le début de ses traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Audrey Bouchard, 54 ans, attend depuis près de 7 semaines ses résultats. C'est une question de vie ou de mort ou de pronostic de ma survie, dit la mère qui n'endort plus la nuit. J'ai une petite fille de 12 ans qui entre au secondaire et j'ai peur de mourir car je suis tombée dans une craque du système. Interpellée à plusieurs reprises par la presse au sujet du cas de Mme Bouchard, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, qui gère la grappe de laboratoire OptiLab, dont fait partie HMR, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, a indiqué mardi après-midi que son rapport de pathologie avait été transmis à l'équipe soignante. Mme Bouchard n'en connaît pas les conclusions. Le CHUM, qui dit exprimer son empathie envers la patiente, reconnaît que, de façon générale, un délai d'environ 4 semaines est considéré comme adéquat pour ce type d'analyse. D'autres cas, ajoute-t-il, des analyses additionnelles sont nécessaires, ce qui peut influencer les délais en pathologie. D'autres facteurs entrent en ligne de compte, dont le volume important d'analyses spécialisées réalisées par la GRAP de laboratoire Optilam Montréal-CHUM pour l'ensemble du Québec, ainsi que la disponibilité de ressources techniques hautement spécialisées en pathologie, indique le CHUM. Michel Richard est à la une de la presse plus, de jeunesse d'aujourd'hui à TikTok. Michel Richard se confie à la veille de ses 80 ans. Eh oui, oh, Michel wow. Richard aura 80 ans vendredi 17 avril. Depuis le départ de ses amis Michel Louvain et René Martel, elle est l'une des dernières idoles de sa génération, écrit Étienne Paré. Celle qui a chanté « Je survivrai » aura tenu parole. Elle a survécu à toutes les modes, à toutes les controverses imaginables aussi. C'est à lire dans la presse d'aujourd'hui. Sur TikTok, des extraits refont régulièrement surface, des extraits de ses chansons. Les internautes se délectent de ses coups de gueule et de son exubérance, des chansons, mais aussi des événements auxquels Michel Richard a été associé.
Ouais.
Un buzz dont la principale intéressée n'a que vaguement entendu parler. Elle dit « Mon gérant est au courant de tout ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas, toutes ces affaires-là. Je n'ai même pas l'Internet chez nous », confesse Michel Richard en entrevue avec la presse. Alors, on y reviendra certainement, puisque c'est une star, cette Michel Richard. J'ai déjà eu la chance de la côtoyer à l'époque où je travaillais. Je me sens comme une... À l'époque de mon séjour, si je puis dire, quand j'étais à la radio de Cité Rock Détente, elle a été chroniqueuse dans l'émission de Véronique Cloutier qui animait dans ce temps-là, qui est toujours à la même station, qui a changé de nom, là, qui est maintenant Rouge FM. Et je m'entendais très bien avec elle. On avait beaucoup de plaisir. À la une du Devoir, un rabais à la pompe coûteux pour l'État. La suspension de la taxe sur l'essence annoncée par Carney privera Ottawa d'environ 2,4 milliards de dollars et ramener une demeure du 18e siècle à la vie, laissée à l'état de ruine, la maison patrimoniale des ancêtres de l'écrivain Yves Beauchemin pourrait-elle être à nouveau habitée un jour? Un dossier de Jean-François Nadeau qui nous donne de l'espoir à propos de cette maison qui vraiment est presque fini. Il n'y a pas de toit, Mais devant ces épais murs de pierre désormais sans toit, un spécialiste de la restauration, l'artisan Martin Bélanger, explique à Yves Beauchemin qu'il souhaite reprendre le bâtiment et le faire revivre sans plus tarder. Et puis à la une du Journal de Montréal, à vendre 33 fois plus cher un terrain qui appartenait à Saint-Jean-sur-Richelieu, une compagnie immobilière qui a acheté un terrain de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la modique somme de 235 000 $ tente présentement de le revendre 33 fois plus cher aux grandes dames de la ville qui vient d'intenter une poursuite contre elle. On n'a pas le luxe de perdre un terrain comme ça, lance le maire récemment élu de Saint-Jean-sur-Richelieu, Éric Latour. Son administration s'est adressée à la Cour supérieure du Québec en février dernier pour carrément faire annuler la vente d'un terrain de 303 000 pieds carrés à l'entreprise Covala, alléguant qu'on lui a caché de l'information.
C'est pas parce que je chante avec l'amour aux lèvres, c'est pas parce que je tente de caresser mes rêves, que je passe à côté des misères de ce monde. Comme toi, je sais bien que la roue est cruelle, comme toi, à la fin, je m'y brûlerai les ailes. Qui cherche la lumière doit embrasser les ombres. Et tant pis, si je tombe, je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume. Et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune. Puisqu'ici-bas, tout se résume à chercher en nous la lumière. C'est ainsi que j'espère. Bien sûr que j'ai les larmes face à tant de détresse. Bien sûr, mon cœur s'emballe au cri des SOS. Mais ce soleil en moi ne s'essoufflera pas. Oh non, non. Je préfère me blottir contre ceux qui n'ont rien. Nous aider à bâtir de meilleurs lendemains. C'est ainsi que je suis, et ça en vaut la joie. Et ça en vaut la joie. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos mille misères. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Et tant pis si j'y perds. C'est pas parce que je ris que j'en oublie nos peines, pas parce que je souris lorsque je monte en scène, que je reste insensible aux laideurs de ce monde. J'aime me dire que la vie est un cadeau du ciel, et je danse sous la pluie comme une enfant rebelle, et je chante l'embellie lorsque le tonnerre gronde. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à faire l'amour en temps de guerre. C'est ainsi que j'espère.
La chanson « Mon sourire » de Zaz.
Une nouveauté, la littératie alimentaire, Isabelle Falardeau, pour contrer le gaspillage.
Exactement, donc je vous en parlais, c'était le forum alimentaire organisé par le Collège Antique le 26 mars dernier. Et plusieurs intervenants qui ont évoqué des pistes pour contrer le gaspillage. Mais avant de parler, de continuer, je vais vous donner des définitions. Donc, la littératie, pour ceux qui se posent la question, à la base, le mot littératie désigne l'ensemble des connaissances en lecture et en écriture qui permettent à une personne d'être fonctionnelle en société. Mais, évidemment, en son sens élargi, ou on pourrait dire par extension, la littératie alimentaire, elle, et là, c'est une définition que j'ai construite à partir de plusieurs sites qui en parlent. Donc, c'est l'ensemble des connaissances, compétences et attitudes qui permettent de planifier, gérer, sélectionner, préparer et consommer des aliments sains de manière autonome. Ça englobe la compréhension de la nutrition, la lecture des étiquettes, la maîtrise culinaire, donc se faire à manger, la conscience de l'impact des choix alimentaires sur la santé, mais aussi sur la culture et sur l'environnement. Donc, tout ce dont on a besoin pour pas juste se nourrir, mais avoir un impact aussi positif avec notre nourriture. Donc, c'est sûr que le gaspillage alimentaire, ça s'inscrit là-dedans. Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? Alors, je vous donne une autre définition. Selon Recyc Québec, le gaspillage alimentaire, ça se définit par toute partie comestible d'un aliment destiné à la consommation humaine qui est détourné, dégradé, perdu ou jeté à n'importe quelle étape du système bioalimentaire. Donc, ça inclut la récupération et la redistribution alimentaire. Des fois, on a gaspillé, c'est-à-dire que ça ne s'est pas rendu où c'était supposé de se rendre. On a essayé de le récupérer, puis ça s'est quand même gaspillé. Donc, c'est inclus dans tout ça. On dit là d'entrée de jeu au forum que la littératie contre le gaspillage n'est pas un sujet assez répandu quand on parle de littératie alimentaire. Et pourtant, on gagnerait vraiment à approfondir ce sujet-là, car il y a plus qu'un milliard de tonnes d'aliments qui sont gaspillés chaque année dans le monde. Un milliard de tonnes.
Difficile à imaginer, hein? C'est...
C'est énorme.
Monstrueux, oui.
Et là, je vais vous faire, je pense en tout cas, vous impressionner encore plus. Selon l'organisme Deuxième Récolte, il y a 46,5% de la nourriture qui a été produite en 2024 au Canada qui a été gaspillée. 46,5%, presque la moitié.
Donc, ouais.
Ça, c'est 58 milliards de dollars qui ont été gaspillés au Canada. À l'échelle du Québec, on parle de 1,2 million de tonnes de denrées comestibles qui se retrouvent à la poubelle. Et là-dedans, on dit que les ménages, donc nous-mêmes, représentent 28 % du gaspillage total dans la province. C'est sûr que, de toute évidence, il y a les entreprises, il y a les restaurants, les stades qui essaient de nous vendre leur hot dog à 10 $, puis après ça, ça se retrouve dans les poubelles. Bref, tout ça, c'est sûr que nous, on est un petit pourcentage, mais on a quand même notre part à faire. Là, évidemment, c'est je ne l'ai pas dit, mais l'article a été signé Benoît Dossier. J'ai trouvé ça dans le journal des voisins Antique-Artierville, où se trouve le Collège Antique. Donc, c'est sûr qu'on se concentre sur les organismes du quartier. Donc, entre autres, on nous parle de la Corbeille Bordeaux-Cartierville, qui est un organisme du quartier. Moi, j'ai habité dans ce quartier-là, donc je connais très bien la Corbeille Bordeaux-Cartierville. C'est là que j'allais porter... en fait, non, à côté, il y avait un organisme qui récoltait les vêtements, mais eux, ils ont une cuisine collective. Ils offrent des denrées à prix réduit pour principalement des immigrants récents, des personnes avec des faibles revenus. Bref, c'est une façon là, de lutter contre le gaspillage. On nous dit ici, tout le monde gaspille, même ceux qui font le maximum pour l'éviter.
Ouais.
Y a plusieurs facteurs qui concourent au gaspillage alimentaire, les achats impulsifs, la confusion sur la mention des dates, hein, le fameux meilleur avant, le manque de temps, le stress du travail qui aboutit à la négligence de l'alimentation. Et à ces facteurs-là, ben, s'ajoute la méconnaissance des denrées. On parle ici de Donald Boisvert, qui est directeur général de la Corbeille Bordeaux-Cartierville, qui nous dit « tout aliment est comestible ». Et lui, à travers son épicerie, qui est une espèce d'épicerie solidaire, il permet à la clientèle de se procurer des aliments et de déguster une gamme de produits. Lui, il suggère d'accompagner la population dans son éducation alimentaire. Ça peut se faire à travers des ateliers culinaires, des activités comme les cuisines collectives, où les gens vont découvrir des produits et apprendre à mieux les utiliser. Parce que... plus on a de connaissances sur les denrées, en fait, quand on connaît mieux les denrées et la manière de gérer les restes, on peut mieux les conserver. Évidemment, là, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut aussi rendre accessibles les produits, mais expliquer aux gens comment les utiliser, ça a un gros impact aussi. Je vous ai parlé de littératie, mais je ne vous ai pas décrit. Je vous ai décrit la littératie alimentaire, excusez-moi.
Oui.
J'ai l'esprit un peu perdu ce matin. Et donc, il y a plusieurs organismes là, qui vont participer à ça dans plusieurs quartiers de Montréal, mais bien sûr à l'échelle de la province et du pays, soit, comme je le disais, par des cuisines collectives pour mieux apprendre. Mais là où ça serait vraiment important de le mettre de l'avant, mais c'est dans les plateformes électorales des partis politiques. Ici, là, c'est Jessica Dufresne, qui est docteur en droit. Elle milite pour un droit à l'alimentation. Elle appelle à la mise en place d'un programme académique qui valoriserait les produits locaux et qui permettrait aux enfants d'avoir une compréhension sur les enjeux du gaspillage alimentaire. Et ça, ben, un programme académique, ça peut partir du gouvernement. Nous, on peut militer pour que ça existe, mais ça doit se faire par le gouvernement. Elle a dit l'alimentation est moins présente dans les plateformes électorales des partis politiques, alors que ça fait vivre littéralement.
Oui.
Et elle termine en disant « 1 $ investi dans la lutte contre le gaspillage alimentaire permet d'économiser des dizaines de dollars. Et une littératie contre le gaspillage alimentaire, ça pourrait permettre de protéger l'environnement par la réduction des GES, de minimiser les coûts et aussi de réduire le stress. » Donc, vraiment plein de bonnes raisons pour mieux s'informer et mieux rendre accessible à la population l'information sur l'alimentation et le gaspillage.
Serge, j'ai quelque chose à dire, Isabelle.
Oui, moi, je me rappelle, ça m'a marqué au secondaire 5, en 1969, un professeur nous avait dit qu'à ce moment-là, d'après une étude qu'ils avaient faite, avec tous les restants de nourriture de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, on nourrissait toute l'Europe. Et avec les restants de ces restants-là, le reste de la planète.
Ah, mon Dieu.
Ça frappe l'imaginaire, on comprend pourquoi vous avez retenu ce...
Et en 69, on jetait moins de nourriture qu'aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas aujourd'hui, ça doit être...
Ça doit être encore pire aujourd'hui. Ah. Mais si jamais vous voulez avoir déjà des outils, il y a un site dont j'avais déjà parlé ici, c'est en anglais Love Food Hate Waste, mais donc c'est .ca, mais il y a une version française. Donc si vous cherchez J'aime manger pas gaspiller dans votre navigateur, vous allez arriver sur ce site-là. Et il y a vraiment plein de sections. Principalement, là, on nous parle donc de planifier avec plein d'outils pour nous aider à planifier nos repas et nos listes d'épicerie. Comment tout utiliser? Donc, une section en 5 façons. Donc, 5 façons d'utiliser les croûtes de pain, les tiges de céleri, les pommes abîmées, etc. et évidemment des trucs pour la conservation, donc pour mieux conserver nos aliments. Donc, c'est vraiment un site super, super utile et complet pour vous aider à gérer, à minimiser votre gaspillage alimentaire.
Parce que c'est plus facile de jeter que de récupérer et de faire des recettes à partir de choses qui sont presque passées date, là. Il faut quand même faire des efforts et avoir du temps pour ça, mais il faut sortir un peu de sa torpeur. Merci, Isabelle.
La planification, c'est important aussi.
Tout à fait. Là, qui veut nous dire quelque chose à propos quoi du Tupperware?
Oui, j'ai le Tupperware, le cappuccino. Le Tupperware, on va commencer par ça. Ça m'intéresse l'histoire de janvier-février, donc où j'ai pris le même article que les brasseuses. Ouais.
Je me souviens, j'avais une tante, Gabi, que j'adorais, qui a été représentante de Tupperware. Elle faisait des démonstrations chez elle.
Oui. En 1946, l'inventeur Earl Tupper met au point un récipient révolutionnaire.
Ah, c'est Monsieur Tupper!
Oui. Une boîte de conservation en polyéthylène parfaitement hermétique grâce à son couvercle inspiré des pots de peinture. Une pression, un clic et l'air est chassé. Push, push. Confiant, il fonde l'entreprise Tupperware et distribue ses produits dans les supermarchés et les quincailleries. C'est un échec.
Ah oui, ça a mal commencé.
Oui. Tout bascule au début des années 1950 avec l'entrée en scène d'une redoutable vendeuse, Bronnie Wise. Son idée? Organiser des réunions
Elle
à domicile.
Elle était wise, c'était Bronnie.
Oui. Organiser des réunions à domicile entre voisines et amis où les maîtresses de maison assurent elles-mêmes la démonstration. En échange, elles touchent une commission sur les ventes. Efficacité et convivialité. 80 ans plus tard, les Tupperware sont encore dans tous les placards.
Oui, c'est moins populaire que c'était, mais il y en a encore.
Oui, oui. Moi, j'en ai beaucoup, chez moi.
Il reste 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez le temps pour votre cappuccino.
Le cappuccino, oui.
Prenez un cappuccino.
Ce café gourmand surmonté de mousse fait partie des plaisirs de la gastronomie italienne. Ses origines remontent au 18e siècle. Servi très sucré, il fait fureur dans les cafés à Vienne. Appelé cappuccinaire, cette boisson doit son nom aux moines capucins et à la couleur brune de leur robe contrastant avec la blancheur des tonsures. Ce café au lait acquiert sa popularité en Italie bien plus tard, au début du 20e siècle, avec l'apparition des machines à expresso.
On ne boira jamais plus notre cappuccino de la même façon.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Du cappuccino, on passe à la bière avec Serge Bradet. La bière, une affaire de femme.
Oui, oui, oui. Un article de Ça m'intéresse histoire de janvier-février 2026. Donc, longtemps, un article de Valérie Koubiak. Longtemps, cette boisson fermentée fut produite et vendue par des brasseuses, avant que les hommes ne mettent la main sur ce marché devenu juteux. Au 21e siècle, les clichés ont la vie dure. La bière reste l'archétype de la boisson virile. C'est oublié que pendant des millénaires, ce breuvage a surtout été une histoire de femme. Environ 2100 ans avant notre ère, l'épopée de Gilgamesh, le plus ancien texte littéraire connu, évoque Enkidu, un homme sauvage initié à la civilisation par une prêtresse nommée Shamhat. Comment s'y prend-elle? Ben, elle lui fait manger du pain et boire 7 cruches de bière.
7 cruches?
Allons-y, et voilà. Plus loin, Gilgamesh entre dans une taverne tenue par Siduri, une femme. Alors voilà. 4 siècles plus tard, toujours en Mésopotamie, le code d'Hammurabi, l'ancêtre des textes juridiques, confirme que tous les professions sont au masculin, sauf celle de brasseuse.
Ah oui?
Oui,
toutes les professions.
Tout est masculin, sauf brasseuse. C'est vraiment dans le texte d'Hammurabi. Donc, c'est un fait. À l'aube des civilisations, les femmes boivent, servent et brassent la bière. Un rôle essentiel si on considère la place de cette boisson fermentée en Mésopotamie. Bue dans toutes les couches de la société, servant parfois même à rémunérer les travailleurs, elle est également sacrée et permet de communiquer avec les dieux, ou plutôt les déesses. Dans la mythologie sumérienne, les brasseuses sont les prêtresses Nikasi, celles qui remplissent la bouche. À la même époque, la bière coule aussi à flot en Égypte. Chaque année, on célèbre l'ivresse de la fête de Tek en souvenir du jour où l'humanité a été sauvée de la destruction par la bière.
Ah,
comment
oui.
C'est arrivé?
Mais oui.
Selon la légende, la fille de Ré, Sekhmet, déesse guerrière assoiffée de sang, est envoyée par son père pour tuer les mortels. Alors voilà.
Pas tuer les morts, les mortels.
Les mortels, oui. Mais elle se laisse tellement emporter par sa fureur qu'elle doit être arrêtée avant d'anéantir l'humanité entière, trompée par une bière teintée de rouge. Elle s'enivre, s'adoucit et devient Hathor, la déesse de la joie et de l'amour.
À cause de la bière. Grâce à la bière.
Oui. Le breuvage lui-même est incarné par une divinité féminine, Menket, qui veille à ce que les défunts ne manquent jamais de mousse dans l'au-delà. Donc, c'est important. Grec et romain bâtissent...
Je pensais à la chanson de Jim et Bertrand, de Jim Corcoran. Y a-t-il de la bière au ciel?
Ah oui, ben oui. Il doit sûrement en avoir.
J'espère qu'il y a de la bière au ciel. Oui. C'est ce qu'il dit, je pense.
Grecs et romains bâtissent une civilisation du vin, mais dans le nord de l'Europe, germains, celtes ou vikings lèvent leur chope pour déguster le nectar fermenté, toujours préparé par les femmes. Si le christianisme relègue les déesses dans les limbes, certaines tenaces revêtent l'habit de sainte. Au 5e siècle, Brigitte de Kildare, patronne de l'Irlande et probable héritière de la déesse celte Brigitte, est l'exemple d'un recyclage spirituel réussi. Bon, là, ce qui suit, là, vous allez avoir un petit... Elle produisait miraculeusement de la bière à partir de son eau de bain. De l'eau de son bain. Ouais,
pour avoir
de
la mousse?
Et un poème du début du Moyen-Âge la décrit en imaginant le paradis comme un grand festin avec Dieu, le Christ, les anges et les saints partageant un véritable lac de bière, raconte la médiéviste américaine Noelle Phillips dans son livre « Craft Beer Culture and Modern Medievalism ». Au Moyen-Âge, la bière perd son aura sacrée, mais pas son importance. C'est la boisson du quotidien consommée par tous, hommes, femmes et enfants, parce qu'elle est bien moins dangereuse que l'eau. Souvent souillée et porteuse de maladies, la bière est nourrissante, facile à fabriquer et bon marché. La confection de ce pain liquide, plus faible en alcool qu'aujourd'hui, est au cœur de l'activité domestique. Les femmes brassent comme elles feraient des confitures ou de la soupe, rien de moins. Toutefois, sans houblon, la bière ne se conserve pas. Nombre d'entre elles écoulent leur surplus dans le voisinage. Cette activité permet aux épouses de contribuer aux revenus du ménage et aux veuves et célibataires de vivre dignement. C'est en Angleterre que le rôle des brasseuses est le mieux documenté. Figure familière des villages, les All Wives, les femmes ale désignant de la bière, donc les femmes de bière, s'affranchissent du cadre du foyer pour se hisser à l'échelle de la petite entreprise et écouler leur breuvage sur les marchés ou dans les tavernes. Un système si bien établi qu'au 13e siècle, la profession de brasseuse est officiellement reconnue et réglementée. Un conseil de régulation goûte les bières, juge de leur qualité, fixe les prix et tient des registres.
Au 13e siècle?
Au 13e siècle, oui. En explorant ces archives, l'historienne Judith Bennett, autrice de Ale, Beer and Brewster in England, a calculé qu'au début du 14e siècle, la ville d'Oxford comptait 115 brasseuses, également appelées cabaretières. Parmi elles évoluaient de véritables professionnels, à l'image d'une certaine Maud Elias, qui vendit 100 gallons de cervoise, environ 500 litres, à la maison du roi Édouard Ier en 1301.
Les hommes buvaient, mais il n'y avait pas de brasseur dans...
Non. Cette activité...
dans l'eau.
Non. Cette activité que l'historienne décrit comme peu rémunérée, peu reconnue socialement et donc peu appréciée des hommes, va changer du tout au tout au cours du 15e siècle. La peste noire qui ravage l'Europe à partir de 1347 marque un premier tournant. Le prix des céréales s'effondre, la consommation de bière augmente. Puis, au début du 15e siècle, l'usage du houblon se généralise et remplace les herbes et les épices d'autrefois. Cette recette facilite la conservation de la bière et permet son transport sur de longues distances. Soudain, le marché devient juteux. Le brassage quitte alors le giron du foyer pour s'industrialiser. Le capital et la possibilité de signer des contrats commerciaux étant aux mains des hommes, les femmes sont reléguées aux marges.
C'est choquant, ça!
Oui, très, très. Judith Bennett cite notamment une ville de l'Essex où, en 1464, la totalité des brasseurs étaient des brasseuses. Et en 1500, une quarantaine d'années plus tard, il ne reste qu'une seule femme. C'est parti vite, hein?
Il y a vraiment un renversement de situation.
Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Les femmes qui continuent leur production sont désormais une menace. Un mouvement de fond que l'historienne décrit comme un tournant misogyne touchant toute l'Europe. Les brasseuses sont frappées par des interdictions, emprisonnées pour avoir brassé à domicile.
Emprisonnées?
Oui. Ou fournies de la mauvaise bière et subissent des campagnes de dénigrement. Pamphlets et caricatures les dépeignent laides, sales, immorales, désobéissantes, en un mot, diaboliques. Dans le climat de rigorisme religieux qui caractérise le 16e siècle, dont les années 1500, et de chasse aux sorcières, les brasseuses cochent toutes les cases. Des femmes financièrement indépendantes, avec des connaissances en botanique, affairées autour d'un chaudron. Imaginez l'image qui nous vient en tête tout de suite, hein? Mieux vaut s'abstenir de brasser si l'on tient à sa réputation et à sa vie. Un siècle plus tard, les brasseuses ont disparu de l'espace public et cette chasse aux sorcières laisse un goût amer. Cinq siècles après, la bière reste considérée comme une boisson d'homme. Et en 2025, parmi les 10 plus grandes brasseries mondiales, une seule est dirigée par une femme. Une seule et seule. Et il y a quelque chose d'intéressant. Après avoir été interdite de brassage, les femmes n'en continuent pas moins à boire de la bière. À la fin du 19e siècle, des campagnes de santé publique la recommandent même aux mères. Nutritive, elle est aussi censée stimuler la lactation. Cette bière de nourrice est ainsi parfois servie dans les maternités et sous le régime de Vichy en France durant l'occupation, à la Deuxième Guerre mondiale, les nourrices ont droit à une ration d'un litre par jour.
Oui, ça c'était au 19e siècle.
À la fin du 19e siècle, mais le régime de Vichy, c'est entre 40 et 45.
OK.
Oui, oui. Mais moi, quand j'étais allé en Angleterre en 90, évidemment, à ce moment-là, on voyageait avec un truc de voyage, là, comment ça s'appelait, le guide de voyage Michelin. Et c'était bien écrit que dans les hôpitaux en Angleterre, après une opération ou un accouchement, on donnait du stout, la bière noire, qu'on retrouve ici le Stout de Guinness, ou anciennement le Porter, qu'on avait ici, le Porter Champlain. Et d'ailleurs, Jeannette Bertrand raconte, quand elle a eu le problème des poumons,
la
tuberculose, c'est ça.
Merci, Isabelle.
Et on lui faisait boire du Porter Champlain.
Pour oublier leur maladie.
Ah oui?
Parce que c'est très vitaminé.
Pour être bon, ouais.
C'est très, très... Les bières noires, là, comme le Guinness de... Je fais la publicité parce que moi, j'aime beaucoup, là. Bière noire, c'est reconnu comme très vitaminé.
Oui.
Ouais, et c'est très stimulant.
Mais il ne faut pas exagérer sur le pain béni.
Non, bon, voyons donc.
Voyons donc. Serge, bon, bien, je vous remercie beaucoup.
Oui.
Et je rappelle que vous avez trouvé cet article qui nous en prend plein de choses sur la bière. Mm-hmm. Ça m'intéresse. Histoire, numéro d'hiver 2026, c'est tout récent, par Valérie Koubiak. Merci à vous. Merci aussi à Isabelle Falardeau. Passez une belle semaine.
Oui, vous aussi. We'll be right back.
C'était la chanson Amaro de Bibi Club.
Ou l'auteur de « Moi, autiste, point d'interrogation, comprendre le TSA de l'intérieur ». C'est un livre qui a été lancé il y a quelques jours, en fait le 1er avril 2026, et c'est publié aux éditions de l'Homme. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors Mathieu, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre-là?
À vrai dire, c'est une demande que j'ai depuis plusieurs années par différentes personnes que j'écrive un livre pour les aider dans la compréhension de l'autisme. Et c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai été sollicité par les éditions de l'Homme pour publier un ouvrage à la suite de démarches d'une de leurs autrices qui est Mélanie Minier. Et le concept a évolué pendant 2 ans.
Et bon, pourquoi ce titre avec un point d'interrogation? Moi, autiste?
Dans le fond, c'est le questionnement que j'ai eu par rapport à des enjeux dans ma vie. Très vite, on avait détecté que j'étais une personne très différente, à besoins particuliers. Mais à l'époque, dans les années 80, on faisait pas d'évaluation s'il y avait pas de troubles graves de comportement, mm-hmm. ce qui était mon cas. On m'a laissé aller avec les différentes recommandations qu'on m'offrait. J'ai eu un parcours relativement normal, malgré beaucoup d'embûches et de difficultés, mais j'ai pu avancer jusqu'au jour où je me suis arrivé en internement psychiatrique et là, pour suicide, et qu'on m'a dit vous avez autre chose qu'un enjeu suicidaire et un trouble du syndrome de stress post-traumatique. Il faudrait vous faire évaluer. Et là, je croyais les médecins, donc je me suis fait évaluer pour avoir de meilleurs soins. Et c'est là qu'on m'a appris que j'étais autiste, dans le fond.
Donc, c'est à 31 ans que vous avez appris que vous étiez autiste.
Oui, c'est ça.
Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que ça vous a aidé à mieux vous comprendre?
À partir de ce moment-là, à vrai dire, il y a eu comme un changement drastique dans ma vie. J'arrivais d'un internement en psychiatrie pour suicide. Le diagnostic...
Vous aviez des pensées suicidaires liées à plein de choses, hein? Parce que vous parlez aussi de votre cauchemar dans le milieu de travail, entre autres, où vous avez vécu du harcèlement psychologique, de la violence aussi. Vous avez été agressé, je crois.
Oui.
Et est-ce que c'est lié à ces événements-là, ces pensées suicidaires-là et ce stress post-traumatique qui vous a mené dans une aile psychiatrique d'un
oui,
hôpital?
Oui, c'est relié à du harcèlement psychologique au travail et à des antécédents multiples de violence à tous les niveaux physiques, psychologiques et même sexuels.
Alors, pourquoi on vous attaquait?
Oh, il faudrait demander la question aux agresseurs. Ouais, mais
parce qu'on trouvait que vous étiez quoi, un peu hors norme?
Oui, bien souvent, c'est ça, c'était des questions de ne pas être en adhésion avec les groupes auxquels j'étais supposé d'appartenir, que ce soit des collègues de travail ou j'étais vu comme une menace des fois par des supérieurs. Il y en a aussi que c'était des façons détournées d'abuser de moi, que ce soit économiquement, intellectuellement ou même sexuellement dans certaines situations.
Donc, c'est sûr que ça laisse des marques très, très profondes et ça crée beaucoup de souffrance. Mais en même temps, cette souffrance-là a fait en sorte que vous avez fait connaissance avec avec un trait dont vous ne soupçonniez pas être avoir finalement. Là. C'est une condition, l'autisme, là, mais c'est à 31 ans, quand vous l'avez su, je répète ma question, ça vous a donné quoi?
En tant que tel, ça m'a rien donné. Au contraire, ça m'a donné beaucoup d'enjeux parce que ça complexifiait les soins que je devais recevoir parce que là, on se battait à savoir si j'étais de la santé mentale ou je relevais des services de TSA. Hein, donc, on a annulé tous mes soins, le temps de répondre à ça. Après ça, au niveau du travail, je suis considéré maintenant inapte à l'emploi depuis ces événements-là.
Depuis quoi? 2010?
Depuis 2014.
OK, 2014. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez quoi, 43 ans?
Oui, oui, j'ai 43 ans.
Et comment vous définissez l'autisme? Qu'est-ce qui cause l'autisme?
Ben, dans les causes, c'est un grand débat encore et sa définition reste encore assez vaste et débattue. Mais c'est assez entendu et reconnu qu'il y a une grande partie qui est génétique. Souvent, on parle autour d'environ 90% qui serait un facteur génétique. Lequel exactement, on ne le sait pas. Il y aurait des centaines de gènes impliqués. Comment ça s'exprime, se manifeste, c'est inconnu. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est pas relié aux stéréotypes ou aux mythes qu'on entend des fois de vaccins, de mère frigide, d'éducation, d'enjeux parentaux, de diète alimentaire. Mm-hmm. C'est pas relié à ces éléments-là. Et pour la définition, moi, celle qui fait consensus, c'est celle du manuel de diagnostic avec le trouble du spectre de l'autisme et les différents critères qui se résument en deux éléments principaux, soit des enjeux de communication, de relation, et aussi des mouvements stéréotypies, intérêts et rigidité pour la personne avec enjeu sensoriel.
Alors, Mathieu Giroux, vous le disiez qu'on vous a déclaré inapte au travail en 2014, mais vous n'avez pas arrêté de vivre et de travailler, là, parce que là, on a un livre aujourd'hui, et puis vous faites aussi de la recherche, vous avez un blog, vous donnez des conférences, vous êtes un homme occupé.
Je suis un citoyen actif, mais au sens du travail, je vis de la solidarité sociale.
Ah,
donc,
oui.
Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de revenu. C'est du bénévolat pour à peu près 95% de mes activités que je fais. Même si, comme vous le dites, je suis chercheur et j'ai même publié à titre personnel comme chercheur dans différentes revues. Mais oui, je suis un citoyen impliqué et actif.
Oui, mais ça serait bien que vous soyez rémunéré pour ce que vous faites.
Je pense que oui, mais oui. Là, il faudrait savoir qui paye pourquoi et dans quelles considérations.
Oui.
Et comme je ne suis pas un employé d'une institution ou d'un endroit spécifique, donc tout le monde se demande qui doit me payer.
Oui.
Et après ça, il y a beaucoup d'enjeux administratifs, mais c'est clair que mes collègues, eux, aimeraient que je sois payé. Ça ne relève pas nécessairement de leur choix, mais c'est vraiment des enjeux administratifs beaucoup plus larges.
Bon, alors on espère qu'à un moment donné, il y a des gens qui se réveillent et que vous ayez un peu plus d'argent dans vos goussets, ne serait-ce qu'à la vente de ces livres-là. Il y a le docteur Baudouin Forgeau?
Oui.
D'Arc, qui a écrit la préface. Qui est-il dans votre vie?
Le docteur Baudouin Forgeau d'Arc est un de mes collègues avec qui je travaille de façon assez intensive depuis plus de 10 ans. Il est un pédopsychiatre, il est le directeur, dans le fond, de la pédopsychiatrie au CHU de Sainte-Justine. Et c'est avec lui que je fais énormément de projets de recherche.
OK, vous travaillez au CHU de Sainte-Justine. Vous faites de la recherche au CHU de Sainte-Justine?
Oui. Oui. Dans le fond, je fais de la recherche dans les principales universités de Montréal, que ce soit l'UQAM, l'UDM ou McGill, et avec Sainte-Justine, mais aussi Rivière-des-Prairies et l'Institut universitaire de soins en santé mentale, anciennement appelé Rivière-des-Pinel.
Et docteur Baudouin Forgeau d'Arc semble beaucoup vous apprécier et c'est de lire sa préface donne envie de mieux vous connaître et d'aller de l'avant dans la lecture du livre. C'est un livre qui raconte votre vie personnelle où vous vous livrez beaucoup, là, vous êtes comme un livre ouvert et il y a aussi tout un aspect scientifique. Vous parlez entre autres de camouflage social. Comment vous expliquez ce concept?
Oui, dans le fond, le camouflage social en autisme, ça correspond au comportement que les personnes autistes adoptent pour camoufler les manifestations qu'on associe à l'autisme. Ça peut être à deux niveaux principalement, soit la compensation. On va apprendre des techniques pour paraître moins autiste. Celles qu'on peut avoir rapidement à l'esprit, c'est par exemple développer un contact visuel ou les normes sociales de salutation comme la poignée de main ou la bise ou des formulations de base comme le oui à comment ça va, qui est une question d'ouverture et non une vraie question dans énormément de cas.
Oui.
Et il y a le masquage, c'est-à-dire les techniques pour cacher des comportements reliés à l'autisme, que ce soit, par exemple, minimiser les stéréotypies ou ne pas toujours parler de nos intérêts.
Ah, OK. Donc, ne pas toujours de parler de vos intérêts, j'allais dire, vous faites un peu comme ceux qui sont non-autistes, malgré que ceux qui sont non-autistes parlent aussi beaucoup de leurs intérêts. Il y a des gens comme ça qui s'intéressent plus à eux qu'aux autres, mais je pense pas que ça soit votre cas.
Ben moi, j'ai un intérêt pour l'être humain, comprendre l'être humain au sens large. C'est entre autres une des raisons pourquoi je travaille dans le domaine de l'autisme. Ça donne une porte d'avenue pour comprendre l'être humain.
Comprendre vous?
Oui, oui, mais comprendre-moi, mais du moins débattre de mon diagnostic avec des professionnels. Et je le fais sur plusieurs angles, que ce soit médical, sociologique, de la communication ou autre.
Vous avez parlé tantôt de stress post-traumatique, d'idées suicidaires. Vous faites un lien avec votre autisme?
Oui, dans le fond, c'est un des facteurs, si on veut, de risque chez les personnes autistes. Les études nous disent qu'énormément de personnes autistes sans déficience intellectuelle vont vivre des enjeux suicidaires. C'est la deuxième cause de décès après le suicide pour ce groupe-là. Il y en a à peu près 1 sur 3 qui vont avoir un plan dans leur vie. Et 2 sur 3 qui vont avoir des idées ou
noires
pour le suicide.
J'imagine que le camouflage social, c'est pas quelque chose de positif, ça, parce que ça vous mène certaines pressions, puis vous êtes un peu quelqu'un d'autre en faisant du camouflage social.
Il y a des impacts très importants sur la santé mentale, mais c'est pas juste négatif. Ça permet d'avoir des relations, d'avoir accès à un monde de travail, d'avoir accès à la société, dans le fond, à être mieux inclus. Donc, c'est pas juste négatif et faut pas oublier que tout le monde en fait. On n'agit pas pareil de la même façon avec son patron qu'avec ses amis. Donc, c'est une forme de camouflage. On agit selon les attentes.
Ouais.
En autisme, il y a un procédé qui est un peu plus particulier. C'est ça qui nous distingue. Mais l'objectif de répondre aux attentes des autres existe pour tout le monde. Mais non, c'est pas quelque chose qui est sans impact négatif, le camouflage social.
Le temps file. J'ai encore beaucoup de questions. Mais je voulais quand même dire aux gens que vous êtes un père de famille. Et quel âge ont vos enfants?
18 et 12 ans.
Et puis, vous êtes à l'aise avec eux? Quel genre de relation vous avez avec vos enfants?
Ils pourraient répondre beaucoup mieux que moi à cette question-là, mais je pense avoir une relation un peu atypique, étant donné mes limites et mes besoins en lien avec mon autisme. C'est beaucoup plus eux qui s'adaptent à moi, j'ai l'impression, que moi qui fais l'inverse. Donc, il y a plusieurs choses, je dirais, qu'ils n'ont pas vécu avec leur père comparativement à d'autres enfants qu'ils connaissent, mais c'est pas nécessairement sans intérêt pour eux, là.
J'en suis convaincue. Et vous finissez avec des expressions parce que paraît-il que les personnes autistes prennent les choses pour ce qu'elles sont. Là. Quand on dit, bon, il pleut des clous dans votre tête, ce sont vraiment des clous qui tombent.
Oui, dans le fond, ouais, il y a une compréhension de beaucoup de communication, de termes qui sont pris au sens très littéraire, premier degré. Et je voulais illustrer un peu comment je conçois les choses quand j'entends les expressions, des formulations et pourquoi des fois c'est compliqué.
Oui, alors il y a plein d'exemples. Dur à cuire, qu'est-ce qu'un mot à cuire? Quand on dit un dur à cuire, ça existe un mot à cuire? S'habiller en mou, qui s'habille en dur, sans queue ni tête, juste un corps ou juste un corps et des pattes, ça veut dire quoi? Enfin, bon livre, on passe par toutes sortes d'émotions en lisant « Moi, autiste » par Mathieu Giroux et c'est publié aux Éditions de l'Homme. Merci d'être venu. On va vous réinviter. Vous êtes trop intéressant. Merci, Mathieu.
Merci beaucoup.
D'autres qui font rien sans leur TV, d'autres que c'est le sexe avant de manger, chacun son style, moi c'est moins gay. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé. du temps qui passait vers 8 heures. Tout allait bien, c'était le bonheur. Mais maintenant qu'il passe vers 3 heures, c'est bien dommage, me v'là chômeur. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur est pas passé. 20 fois, 100 fois dans l'escalier, je descends voir la boîte à courrier. Quand à 4 heures j'ai rien trouvé, je dis ça se fait pas, il s'est trompé. C'est comme s'il y avait pas de journée, vu que le facteur n'est pas passé. Même que je suis rendu que je m'abonne à des revues que je trouve pas bonnes. Les plus gros comptes, je trouve ça le fun. Envoyez-en Simpson Eaton. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé. C'est un peu comme si j'attendais une lettre qui ne m'arrive jamais. Une lettre de quelqu'un qui m'aimerait. Une lettre de quelqu'un qui m'aimerait. Mes journées pourraient commencer avant que le facteur soit passé. Qui partent sans déjeuner, d'autres qui font rien sans leur TV, d'autres que c'est le sexe avant de manger. Chacun son style, moi c'est moins gay. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé.
Sylvain Lelièvre, le blues du courrier.
Eh oui, le blues du courrier, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, Sylvain Lelièvre. C'est toujours bon. Voir, juger, agir, l'histoire de la JOC ou de la JOC au Québec. On va écouter la bande-annonce de ce documentaire et ensuite, je vais saluer mes invités. Ben, je peux les saluer tout de suite. Annie Deniel, qui est réalisatrice du documentaire. Bonjour, Annie. Bonjour. Et Marie-Claire Nadeau, qui fait partie du documentaire. Une femme très impliquée. Elle va tout nous raconter sur son implication.
Bonjour, Hélène.
Bonjour, Marie-Claire.
La JOC m'a appris à avoir de l'espoir, de changer de monde.
S'il n'y avait pas eu de JOC, les jeunes travailleurs n'auraient jamais rien eu.
J'avais découvert qu'on était toute une force. On allait à la rencontre des jeunes dans notre ville pour faire enquête.
Les filles en usine étaient triplement exploitées.
Et ils nous sacraient après. À 14 ans, j'arrivais chez moi, soit je pleurais.
L'action passait par la syndicalisation. Le syndicat de boutique qui voulait pas se faire déloger avait essayé de nous faire peur en mettant une bombe dans notre porte.
L'impulsion de la JOC pour le syndicalisme québécois est inestimable. Il a été, de tous les combats, une espèce de lieu de formation de militants dans les syndicats locaux dès les années 60-70.
Au Québec, c'était ça, la lutte ouvrière, la lutte syndicale. Il y en a eu des grands aussi.
Trop souvent, on caricature ces mouvements-là comme étant des mouvements de pieuserie, de bondieuserie. Alors que la JEC, la JOC, ont été des mouvements absolument importants pour préparer la transformation de la société québécoise.
Je pense que la JOC a posé les bases de l'action communautaire moderne du Québec.
La JOC a permis à des gens ordinaires de devenir des citoyens extraordinaires.
« Il y a tellement de choses à dire. J'ai beaucoup aimé ce documentaire. Je ne connaissais pas du tout la JOC. Voir, juger, agir. Et Annie Daniel, vous êtes toute jeune. Pourquoi vous avez eu envie de faire un documentaire sur la JOC?
Alors, c'est Marie-Claire
qui est avec nous,
qui m'a approchée avec André Vanas.
Le producteur.
Le producteur, pour nous dire que Ghislaine Patry, José Desrosiers, qui faisait partie du comité de la GOC, en fait, qui fermait boutique, parce que c'est en 2019, la GOC s'est éteinte au Québec. Mais elle voulait transférer, faire un leg à Mission Inclusion pour que cet organisme-là continue la mission auprès des jeunes, aider les jeunes au niveau de la scolarité, etc. Et puis, elle voulait faire un film pour documenter ce qu'avait été le mouvement, parce que c'est un mouvement qui a perduré pendant 90 ans.
Qui est né en Belgique.
Qui est né en Belgique en 1925 avec Joseph Cardjean, qui a été celui qui a créé, en fait, les bases du mouvement Le Voir, Juger, Agir, qui, après, a fait des petits un petit peu partout dans le monde, hein, aussi, parce que la GOC existe dans plusieurs pays. Et donc Marie-Claire, José, Ghislaine nous ont approchés en disant, ben voilà, on voudrait faire un film pour documenter ce mouvement-là, laisser une trace, parce que ça a été quand même très important au Québec.
Il
n'y
en avait pas eu de documentaire.
Non.
Alors
c'était surprenant parce que, bon, avec André, quand on a commencé à regarder les archives, il y avait énormément de films des années 30, 40, 50, 60, des films aussi belges, en fait, qui témoignaient de l'importance de la GOC en Belgique dans les années 30, 40. Et là, on s'est dit, mon Dieu, il y a vraiment quelque chose à faire avec toutes ces archives-là, parce que ces gens-là ont été impliqués, ces jeunes travailleurs ont été impliqués à plein de niveaux, au niveau du syndicalisme, au niveau du féminisme et de l'émancipation des femmes, au niveau aussi des services à la population. Ils ont été à l'initiative de certains organismes communautaires qu'on verrait dans le communautaire. Donc, il y avait énormément de choses à dire.
C'était riche, oui.
C'était riche. Alors, au début, ça devait être un film de 30 minutes. Et avec André, on s'est dit, mais c'est pas possible. Hein. Il y a trop de choses à raconter.
Faut faire plus long. Et il y avait plusieurs personnes aussi qui étaient là pour témoigner.
Oui.
Comme vous, Marie-Claire Nadeau. Comment vous avez connu la JOC, qui veut dire Jeunesse ouvrière catholique?
Ben, j'ai connu la JOC, c'est quand on entrait sur le marché du travail. Donc, j'avais 16 ans, j'entre sur le marché du travail, je me trouve un peu isolée, déconcertée. Je me dis, est-ce que ça va être ça?
Vous travaillez dans quel domaine?
Je travaillais dans un pool de dactylos. Alors, on voit des exemples dans le film, d'ailleurs, de personnes qui font la dactylo. Alors, c'était mon métier, là.
Votre métier.
Ouais.
Et ça a façonné une partie de votre vie?
Ça l'a transformé ma vie complètement.
Ah oui, à ce point-là.
Je pense que comme tous ceux, les cinq autres personnes qui témoignent dans le film, on peut dire que la JOC a été notre université. Nous étions tous des gens qui sont sortis d'un petit secondaire et souvent d'un primaire. Et la JOC nous a tout appris, c'est-à-dire nous a appris à réfléchir, à agir, à changer le monde. Mm-hmm. Comme on dit, on le répète à plusieurs reprises dans
le film. Mais qui vous a appris à changer le monde, justement? Vous aviez des rendez-vous. Comment ça se passait, là?
Bien, c'est un mouvement. D'abord, la JOC, c'est un mouvement. Puis c'est important, la dimension internationale. Annie en a parlé tantôt. On avait des réflexions à tous les niveaux, locales, régionales,
et ça
nationales.
Se passait lors de rencontres?
Oui, on avait une réunion hebdomadaire dans notre paroisse. Bon, à l'époque, la structure de paroisse était celle qui accueillait. Là, en 1960, là, c'était la structure de paroisse qui accueillait les groupes de jeunes. Il y avait une JOC des filles, une JOC des gars. Après, ça, vers les années, fin des années 60, là, c'est devenu une JOC mixte.
Mm-hmm.
Mais donc, c'est les paroisses qui accueillaient les groupes. Et c'est là qu'on faisait la fameuse réflexion « Voir, juger, agir ». Dans le fond, ce que Cardin nous a laissé comme héritage, le fondateur de la JOC, ouais. C'est des méthodes, des moyens d'action qui ont fait que le mouvement a grossi parce que le « Voir, juger, agir », chaque personne, chaque membre d'une équipe de jeunes, entre eux, par eux, pour eux, pouvaient faire cette réflexion-là sur leur vie et voir comment la changer, comment l'améliorer, comment la transformer.
Bon, c'est ce que veut dire la méthode, voir, juger, agir. Oui. Et c'était la jeunesse qui était sollicitée pour participer à ce mouvement-là. La jeunesse de quel âge environ?
Exactement.
Ben là, vous avez parlé de vos 16 ans.
Oui, on entrait sur le marché du travail.
Ben, il y a 16 ans,
à 15 ans, 16 ans, ouais. 14 ans même. Beaucoup de... Lucie, qui témoigne dans le film, Lucie Saint-Germain, est entrée sur le marché du travail à 14 ans en usine.
Oui.
Et il y avait des enquêtes qui ont été faites. Ghislaine Patry en parle en 57, où des petites filles de 12, 13, 14 ans étaient déjà travailleuses d'usine avec des statistiques. Puis des
et des conditions de travail assez abominables.
Oui, absolument.
C'était des enfants.
Oui.
C'était des enfants.
Est-ce que c'est vous qui avez fait, vous, la réalisatrice, là, Annie Deniel, qui avez fait les recherches pour trouver les participants, les intervenants, alors, les experts qu'on peut voir dans votre documentaire?
Alors, j'ai fait conjointement avec André Vanas, le producteur. Mm-hmm. On l'a fait en fonction des archives que l'on trouvait. Puis on voulait aussi... Que des gens qui avaient vécu une certaine décennie, comme Ghislaine, c'est plus les années 50, incarnent cette période-là. Marie-Claire, c'est plus les années 60. On a José Desrosiers, c'est les années 90. Voilà, ça, on voulait des gens, par leur vécu, qui incarnent une certaine décennie pour pouvoir en parler. Et puis aussi, on voulait avoir un éclairage et un contexte plus global de la situation au Québec avec des experts comme Emmanuel Martin-Meunier, qui est sociologue à l'Université d'Ottawa, et puis également Lucie Pichet, qui est historienne et qui a écrit un livre sur... les femmes, la condition des femmes dans la GOC et leur émancipation jusqu'aux années 60. En fait, elle a vraiment couvert cette période-là, des années 30 aux années 60.
Justement, on découvre aussi que la JOC et ceux qui en font partie, ce sont les JOCistes.
Les JOCistes, oui.
Les JOCistes et non les JOCistes, comme on entend.
Dans le
documentaire, oui. Alors, on découvre que la JOC a contribué au mouvement syndical, on l'entend aussi dans la bande-annonce, et féministe des années 70. Mais comment s'est faite cette contribution-là?
Bien, je pense qu'elle s'est faite par des... je dis dans le documentaire que la JOC nous a permis de nous allumer aux réalités de notre monde, dans le fond, de notre ville, de notre
société.
Région, de notre... genre. Et
ouais.
Tout ça fait qu'après notre passage à la JOC, on ne pouvait pas s'éteindre, là, on ne pouvait pas arrêter d'agir pour transformer. Donc, comme Ghislaine, par exemple, est devenue la présidente de la Fédération des femmes, elle a travaillé, elle était vice-présidente à la Commission des droits de la personne. Moi, j'étais engagée dans le syndicalisme. Après ça, je suis allée travailler au Pérou avec les femmes pour un peu essayer d'organiser leurs conditions avec les mêmes méthodes, dans le fond, essayer d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie.
Oui.
Yvon est devenu, par exemple, un des pères fondateurs des maisons oxygènes qui s'occupent des pères qui sont en détresse.
Est-ce que vous utilisez toujours cette méthode dans votre vie, Marie-Claire? Voir, juger, agir?
Bien, absolument. C'est ce que j'ai appris, puis c'était mon université. Puis le voir, juger, agir, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Guy Rocher, mais ça a été la base de son engagement et de son développement.
Est-ce qu'il faisait partie des jeunesses ouvrières catholiques?
Non, il était dans la JEC, les jeunesses étudiantes catholiques.
Okay.
Et c'est à ce titre-là que il avoue qu'il a eu des relations avec, par exemple...
Des jocistes?
Oui, j'espère. Mais aussi avec le fondateur de la JOC, Cardin, qui l'a été rencontré en Belgique là, dans le début de son engagement. Donc, c'est une méthode sociologique pour analyser et nous le faisions ensemble. Au lieu de demander à un expert de venir jeter un regard sur notre réalité, nous le faisions entre nous. Et les actions qui ont été posées par la suite de ces regards-là, voir, juger, agir, bien, sont devenues, c'était au niveau local, on essayait de transformer nos situations, comme par exemple, je le dis, plusieurs petites villes au Québec ont eu des services de loisirs qui ont été initiés par des jeunes de la JOC, parce qu'il n'y en avait pas aucun, il n'y avait rien. Alors, Lucie Piché parle aussi des coopératives d'habitation, de comment de mouvements communautaires, d'alphabétisation ont été initiés.
On se rend compte à quel point les JOC avaient le brelon, si je peux dire. Mais le documentaire pose un regard aussi sur l'héritage catholique dans un contexte où l'Église est souvent critiquée. Comment vous avez abordé cet aspect, Annie, Daniel?
En fait, dans le film, on s'intéresse, c'est vraiment un regard sur les militants et les militantes.
Ouais.
On voit dans les archives que les aumôniers, les curés étaient présents dans les années 40, 50, 60. Mais
leur présence était quand même assez discrète, d'après ce que montre le documentaire, en tout cas.
Oui, oui. Il y avait des messes qui étaient données quand même à une certaine époque, mais après, c'était plus ça.
C'était des jeunes qui pratiquaient. Je dirais que les aumôniers ont été des accompagnateurs. Et ça a toujours été le fond de... Les aumôniers sont là pour accompagner puis peut-être assurer une certaine continuité quand nous, les jeunes, passions à l'âge adulte et devions aller nous engager ailleurs. Les aumôniers assuraient la continuité du mouvement dans leur paroisse, dans leur ville, dans leur quartier. Mais ils ont été toujours très... La plupart ont été vraiment respectueux. Mm-hmm. C'est sûr que c'était un certain encadrement par l'Église, mais... On s'en est bien sorti.
Ce que j'allais dire, c'est ça, c'est à l'époque, était comme
c'était
ça.
Enfin, correct.
C'est l'Église
c'était
qui
correct.
Régissait tout.
Oui.
Ouais. Donc, si on voulait faire de l'action sociale, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de voix.
C'était incontournable
parce que...
Non, puis ça venait quand même de la... Dans le fond, l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, était vraiment... C'était l'action sociale dans l'Église, l'action sociale dans la chrétienté. Le mot d'ordre était lancé. Cardin, le fondateur de la JOC, a pris ça comme un leitmotiv, comme une raison de dire « J'ai raison de vouloir organiser les jeunes alentour d'un nouveau message de l'Église, dans le fond, le message de la dignité de chaque être humain. » Cardin répétait dans toutes ses conférences « Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. »
Ah oui,
donc,
tout l'or du monde. Je pensais de mettre la chanson, mais là, ça nous rappelle trop ce qui s'est passé récemment avec la CAQ qui a chanté
chanson-là. C'est ça, c'est ça.
Il y a des mariages, on voit, je pense, 105 couples qui se sont mariés.
Oui.
C'est assez impressionnant. Je connaissais pas ça non plus. On apprend beaucoup, beaucoup de choses.
Mais Ghislaine le raconte un peu. Tu sais, dans le fond, c'était... Puis moi, je connais Mme Grégoire de Magog, qui a été une des organisatrices, parce que c'est la mère d'un de mes amis. Et alors, elle dit, on fait des réflexions. Le voir juger agir cette année-là, ou ces années-là, étaient sur les fréquentations gars-filles, là. Tu sais, c'était pas toujours égalitaire, puis c'était probablement pas toujours... Donc, ils font une réflexion, un voir juger agir dans la JOC. Ils décident que les jeunes ont besoin d'une préparation avant de s'engager dans le mariage. Donc, ils commencent des cours, tranquillement, des cours qu'ils appellent de préparation au mariage. Et de ça, bon, ils disent, bien, tant qu'à faire, puis tant qu'à avoir tant de monde qui se prépare, puis aussi la grande pauvreté dans les villes, puis tout ça, tout le monde ne pouvait pas se payer un mariage. Donc, ils l'ont fait 105 couples ensemble. Et c'est un moment historique au Québec, parce que beaucoup de gens se réfèrent à ce moment-là et se questionnent comment ça se fait. Mais c'est arrivé parce que des jeunes de la JOC ont réfléchi.
Oui. Je serais curieuse de savoir combien d'enfants sont nés à partir... Et combien de séparations, combien de mariages ont tenu?
Également. Moi, je pense que les femmes, dans les cours de préparation au mariage, qui ont été par la suite un service appartenant à la JOC, la JOC avait une branche qui s'appelait... Puis après, ils sont devenus autonomes, là, les services de préparation au mariage. Mais il y a beaucoup de gens qui témoignent de... Moi, mes parents étaient là.
Oui.
Bon, puis c'est sûr que ça l'a amené, je pense, ça aussi, les femmes à prendre un peu mieux leur place.
Et au-delà du devoir de mémoire, quel message vous souhaitez transmettre aux jeunes d'aujourd'hui, là? Est-ce que c'est d'un intérêt pour eux, ce documentaire?
Je pense que oui. Nous, on aimerait que les gens viennent en famille parce que le film est encore en salle, là. Il a été renouvelé.
Oui, j'ai toutes les dates ici. Je vais les donner à la fin de l'entrevue.
Et puis, ce qu'on voit dans les questions-réponses, quand il y a des familles qui viennent, les gens... échangent et se racontent des choses aussi de ben, ma grand-mère, elle a vécu ça, etc. Il y a des choses qui se transmettent. Et ce qu'on veut transmettre beaucoup, c'est un message de sensibilisation par rapport à la mobilisation actuelle et que voilà, là, on est un peu à l'aube, hein, je ne sais pas si on peut dire de la Révolution tranquille 2, mais je veux dire, il y a tellement de problèmes actuellement dans la société que ça vaudrait le coup que tout le monde se mobilise et que souvent, la mobilisation vient des jeunes aussi. Ce sont les jeunes qui font la Révolution. On l'a vu dans plein mouvement, mai 68, les carrés rouges aussi, ici au Québec.
Et on a encore confiance que ça va être comme ça.
Parce que voilà, c'est pour leur futur aussi.
Ouais.
Et on fait ce film-là aussi pour le futur, pour voilà, dire aux gens, ben, faut pas arrêter de militer pour ses droits. Même si le monde du travail a changé, même s'il y a plein de choses voilà, qui diffèrent maintenant, il y a des batailles à mener. Et nous, là, actuellement, on reçoit les acquis d'autres générations qui ont mené ces batailles pour nous. Et voilà, il faut qu'on lègue ça pour nos enfants aussi. Là. Donc, c'est ça, c'est un message positif hein, de sensibilisation et de mobilisation.
Il y a un jeune, la semaine dernière, lors d'un visionnement à Québec, qui est un jeune de 16 ans. Que dit.
L'âge que vous aviez quand vous travailliez dans un pôle de dactylo.
Oui, oui. Et il a dit en témoignage à la fin du film, je connaissais, où, à l'école, on nous parle des horreurs de cette époque-là, des difficultés, bon, l'avant-guerre, l'après-guerre, avant la Révolution tranquille. Mais il dit, j'avais jamais vu qu'il y avait du monde qui prenait des moyens pour s'en sortir. Puis il dit, là, dans le film, je le vois. Fait que c'est
quel beau témoignage.
Plus beau témoignage que ça. Oui. Et plusieurs jeunes qui sont venus aussi, des moins jeunes là, de 30 ans, nous ont dit, il faut que ce film-là aille à l'université, soit vu, soit regardé dans les cégeps. Donc, c'est sûr. Puis on le dit dans le film aussi, la jeunesse d'aujourd'hui, comme le disait Annie, on a une pleine confiance que oui, ils sont capables, mais on peut leur donner un coup de main, donner des moyens. Puis des témoignages comme ça, si ça peut... alimenter leur réflexion, bien bravo.
On invite les jeunes et les moins jeunes aussi à découvrir ou redécouvrir la JOC, J-O-C, les jeunes... les jeunesses ouvrières catholiques.
Oui. Chrétiennes à la fin, là.
OK. Et donc, il y a déjà une représentation aujourd'hui, 15 avril à 13h45 au cinéma public. Demain, 15h45, avec vous, Marie-Claire Nadeau, qui allez participer à une discussion après la projection. Okay. Il y a aussi des représentations aujourd'hui au cinéma Saint-Eustache, le 19 à la Maison du cinéma Sherbrooke. Vous faites pas mal le tour du Québec. Le Carrefour du Nord à Saint-Jérôme, Cinéma Neuf à Gatineau, le 4 mai. Il y a des dates comme ça. Vous pouvez aller...
sur la page Facebook du film, il y a toutes les informations. Donc, la page s'appelle « Voir, juger, agir », le nom du film, en fait. Et là, vraiment, tout est regroupé.
Et là, c'est la coopérative Funambule Média là, qui détient le film et qui travaille... Les gens travaillent très fort à la coopérative.
Pour qu'il soit diffusé partout au Québec.
Pour vraiment être diffusé le plus largement possible.
Et vous aussi, vous travaillez très fort, Marie-Claire. Là. Vous êtes... pas mal mais dans toutes les discussions après projection. Oui, Chicoutimi, vous y serez, Cinéma Odyssée. Et puis ensuite, il y aura d'autres représentations, Rivière-du-Loup, Rimouski, Mont-Saint-Louis, pour découvrir, voir, juger, agir l'histoire de la JOC au Québec. Et j'en parlais avec la réalisatrice Annie Deniel. Et Marie-Claire Nadeau, militante communautaire féministe et ancienne jociste, protagoniste du film. Merci, merci à vous deux.
Merci.
Bon
merci.
Succès
merci beaucoup.
Avec la suite.
Merci beaucoup.
Oui. Merci.
Ce qu'on parle de nos gens qui sortent,
I'm cause I wake up. Je veux pas voir mon calendar. Je dis merci, la vie est une chance qu'on est deux. When I wake up. De me faire sourire. Fais ça l'air un disque de notre voyage au Brésil. Si t'as t'aidé au salariat du camion en fruits. Je regarde ton avion signer le ciel. C'est comme si tu m'écrivais un poème.
J'avais dit qu'on ne s'ennuierait pas une seule seconde. Merci beaucoup, Mathieu Tessier, d'avoir été aux commandes. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. J'espère vous retrouver demain, jeudi, à compter de 9h30. D'ici là, portez-vous bien.